Et tout de suite, le moment de retrouver notre invité pour ce jour. Il s'agit de Jacques Bec, poète, écrivain. Jacques Bec, de l'association Les Poètes des Hautes-Terres, hein, qui nous vient de Valensole, un village qu'il affectionne particulièrement. Et je suis ravie de l'accueillir pour nous parler de son dernier bébé entre deux siècles. Bonjour Jacques.
Bonjour Odile. C'est un roman qui fait suite à mes deux précédents romans. Oui, chronologiquement, il fait suite et en même temps, il fait, comme les deux précédents, référence à Valensole, au contexte national et international, pendant une certaine période, avec toujours ces allers-retours entre le local, le national, l'international, tous ces déterminants qui pèsent sur une population, qui pèsent ou qui ne pèsent pas d'ailleurs, hein, sur une population. Et en l'occurrence, là, Entre deux siècles fait suite, alors vraiment, au siècle de Joseph. Et par le biais d'un dialogue avec un alter ego, qui est un personnage créé dans le roman, d'une période que j'ai bien connue, puisque c'était une période d'activité, hein, de mon activité professionnelle, on va 1970, 2024, enfin, j'étais à la retraite en 2012, mais voilà, il y a 50 ans de vie, d'évaluation, de prise de recul sur une période où on se rend compte qu'il y a énormément de changements qui se sont passés et qui valent peut-être le coup d'être identifié, avec peut-être plus de questionnements que d'explications d'ailleurs, mais c'est assez compliqué dans un roman d'arriver, d'essayer de cerner une période où les évolutions sont considérables, on le sait tous, hein, avec beaucoup d'incertitudes, on le sait tous aussi. Hein.
Ce livre fait suite à « Vous étiez paysan », votre premier roman, le second c'était « Le siècle de Joseph », et celui-ci, entre deux siècles, donc vous poursuivez votre voyage dans le temps. Cette fois, vous parlez beaucoup de Valensole, mais aussi de ce qui se passe malheureusement dans le monde, de pas toujours réjouissant, puisqu'on vous retrouve en Espagne, en Algérie.
Voilà. Les lecteurs se souviennent sans doute que dans le siècle de Joseph, émergeait un personnage, Paul Valaguer, fils d'industriel, d'une famille d'industriels, qui en réalité est le fils naturel d'un ancien combattant des brigades internationales d'origine valensolaise. Et sa mère, donc, qui se sacrifie en 1939, il lui naît en 1938, et sa mère qui se sacrifie sur les dernières barricades barcelonaises avant l'arrivée des nationalistes, lui avait laissé une lettre que son grand-père industriel dans le textile lui donne à un moment qui est important pour lui, au moment de son adolescence, où il se pose beaucoup de questions. Et il découvre ainsi que son père, son géniteur, est un agriculteur valensolais, provençal, valensolé, et la curiosité, la recherche des racines, parce que les racines comptent beaucoup aussi dans mon roman, hein, la recherche des racines fait qu'il vient à Valensole, qui finit, le roman, le siècle de Joseph s'arrête là, mais Paul Valaguer va plus loin, il finit par acheter une maison à Valensole, par filiation, pour se faire en quelque sorte une autre racine. Et puis, je le rencontre, moi qui aime bien me promener, penser, regarder un petit peu le paysage, mettre en perspective historique les choses. Il se trouve que je le rencontre et que nous établissons une relation suivie avec des balades, faites de balades autour de Valensole, dans des découvertes un peu insolites. Et que ces balades sont l'occasion d'échanger sur ce qui fut notre vie, hein, professionnelle. Et puis aussi d'échanger sur des pays que nous avons connus professionnellement tous les deux. Comme lui est industriel dans le textile, eh bien, il se trouve, comme par hasard, mais le roman est fait ainsi, qu'il est allé aussi, comme moi, pour d'autres raisons, au Brésil, au Vietnam, en Algérie, en Hongrie, enfin bon, dans un certain nombre d'endroits. Et c'est l'occasion d'un bilan de vie aussi et d'une mise en perspective par rapport aux générations qui arrivent. C'est d'ailleurs comme ça que le roman se termine.
Alors vous avez des enfants, Jacques, et est-ce que ce livre est aussi comme un passage, faire passer votre histoire aussi à vos descendants ?
C'est forcément quelque chose comme ça. Quand on a 75 ans, on pense aussi, et d'ailleurs lorsque j'ai écrit surtout la fin, je pensais beaucoup à mes enfants et à mes petits-enfants, pour deux raisons, pour une raison évidente, c'est laisser voir ce que j'ai pu vivre, ce que nous avons pu vivre, ce qui constitue le noyau familial, nous sommes très famille, hein, et c'est bon, ce qui constitue le noyau familial, mon épouse, moi-même, bon, avons traversé, pas forcément de façon douloureuse, hein, d'ailleurs, hein. Et en même temps, il y a aussi peut-être une espérance, c'est que redonner ces lettres de noblesse à l'histoire. Je pense qu'on est dans une période un peu ahistorique. L'histoire n'est sinon niée, elle est surtout, les choses sont faites surtout sur l'événementiel, quoi. Or, l'événementiel a souvent des racines explicatives. Et si on se coupe des racines explicatives, on ne comprend plus rien à une des situations qui sont extrêmement complexes. C'est un peu ça, c'est ce double message. Et puis quand je vois, d'ailleurs je le dis à la fin du roman, on voit bien que les enfants sont très liés à l'outil informatique et au portable, à cette interaction permanente qu'il y a avec leur téléphone, sur lequel ils puisent de multiples informations. Et je me pose des questions. L'outil, j'ai toujours en tête ce que disait Jean Piaget, un psychologue de l'éducation célèbre, qui disait « l'outil doit rester l'outil, quoi. Il n'est rien ». Bon, à son époque, il parlait des tableaux, des projecteurs, etc. Mais on pourrait dire la même chose de l'ordinateur. Si on ne maîtrise pas l'outil, le problème, c'est de maîtriser l'outil. Alors, ça renvoie très loin. On pourrait parler de l'intelligence artificielle, on pourrait parler de tas de choses. Mais je me pose la question en disant « si les jeunes sont surdéterminés par l'outil, c'est très embêtant, quoi ». Donc j'y vois un risque de reproduction sociale à l'état exponentiel. Dans notre, je le dis dans mon roman, dans notre génération, on luttait contre la reproduction sociale au sens bourdieu du terme. Et moi, je me demande si on n'est pas à un moment, alors même qu'elle se réduisait, et je me demande si on n'est pas à un moment de reproduction sociale élargie, dans la mesure où il y a deux sortes de jeunes. Il y a ceux qui ont des bases. Vous savez, vous faites de la musique, Odile, c'est un peu comme la musique. Si vous avez les bases, vous pouvez apprécier, maîtriser certains types de musique, tous les types d'ailleurs de musique, et vous voyez où est la qualité, où elle n'est pas. Si on n'a pas les bases culturelles pour maîtriser cet outil permanent que les jeunes ont entre les mains, ils ne le maîtrisent pas, ils sont surdéterminés par lui. Et c'est ça qui me pose problème, quoi. Enfin, qui, à mon avis, pose un peu problème. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses dans ce que je dis, j'espère que je suis clair.
Donc c'est un livre sur l'amitié aussi, les rencontres et la vie politique aussi.
C'est un livre sur la vie politique, parce que c'est un livre sur ma vie, et que ma vie a été faite de périodes, notamment dans les années 70, je le dis, qui ont été extrêmement politiques. J'étais très engagé politiquement au sein du Parti communiste français. Bon, c'est une période extrêmement complexe, mais enthousiasmante aussi d'une certaine manière, avec ses limites. C'est toujours pareil, Ses limites, parce que, évidemment, quand vous êtes l'acte militant, alors aussi, c'est... Vous savez, il y a quelque chose de... Je dirais de philosophique chaque fois, mais bon, c'est aussi un appel à la réflexion. Quand on est militant, quand on est très investi de façon militante, il y a deux aspects. Il y a un aspect positif, au sens où on peut s'acculturer, se cultiver dans un univers, essayer de maîtriser un certain nombre de choses, lire beaucoup, s'interroger, aller au cinéma, etc. Bon, tout ce que j'ai pu faire, tout ce que nous avons pu faire, ma génération dans les années 70, issue un peu de 68. Et en même temps, il y a un côté enfermant, c'est-à-dire qu'on est très orienté dans nos lectures, dans les films que l'on choisit, dans ce que l'on s'interdit aussi de lire ou de voir ou d'écouter ou d'entendre, parce que tout n'est pas d'écouter, mais encore faut-il entendre. Et c'est un peu ça. Et Paul Valaguer, qui lui a vécu sous le franquisme, même s'il était dans la grande bourgeoisie, à un moment donné, nous discutons, et il me dit « Mais au fond, tu es en train de me dire que tu t'interdisais des choses ?» Que tu t'es finalement un peu dans ma situation. Moi, on m'interdisait des choses, mais toi, tu t'interdisais aussi, quoi. Il y a aussi ce questionnement sur la distance nécessaire que l'on doit prendre avec chaque chose. Le sens de la mesure qui vient peut-être avec l'âge. Je suis devenu très camusien. C'est pas un hasard. Alors que Camus, pour moi, à une certaine période, était le symbole d'une espèce de porosité idéologique qui m'était insupportable, quoi. Voilà. J'ai bien changé de ce point de vue-là. Voilà.
La nature aussi a son importance. Vous avez toujours aimé vous promener, être en contact avec la nature, les randonnées, mais aussi le vélo.
La nature a son importance parce qu'elle est le lieu d'un ancrage. Quand je dis un ancrage, c'est un ancrage historique, géographique. Vous savez bien ce que dit Brodel de l'histoire et de la géographie. Je crois qu'il faut en prendre la pleine mesure. Savoir apprécier un paysage, ce qui nous entoure, c'est pas si évident que ça. C'est pas donné à tout le monde, surtout dans un monde où les choses sont très médiatisées, finalement très superficielles. On voit des tas de gens qui parlent de la nature sans la connaître, par exemple. C'est évident, quoi. Pour moi, elle fait partie, j'ai la chance, peut-être, entre guillemets, d'avoir eu une enfance paysanne, quelque chose qui fait partie de moi, de mes repères, de mes manières de fonctionner, de mes perceptions. Et je crois qu'elle apporte, elle nous permet, en tout cas, de garder une certaine sagesse. Le regard qu'on peut jeter sur un univers qui nous est totalement étranger et peut-être amélioré ou en tout cas peut-être aiguisé par la claire perception qu'on a de son ancrage, du lieu, de l'appréciation qu'on peut avoir de la nature. Si on est capable d'apprécier le banal de la vie, c'est-à-dire ce qui fait notre environnement, on est aussi capable d'apprécier dans ses variations quelque chose qui est beaucoup plus exotique, extérieur, insolite. Et voilà, moi, ça fait partie de ma vie et je crois que celui qui ne sait pas apprécier les choses de la vie, ça doit être très douloureux pour lui, quoi. Qui cherche des exotismes ailleurs. Bien sûr, c'est bien d'aller ailleurs, je ne dis pas le contraire, mais savoir apprécier ce que l'on a, ce qui fait partie de notre quotidien, c'est très important, quoi. Parce que je ne pense pas qu'on soit heureux, enfin c'est heureux qui comme Ulysse, hein, mais en même temps, je ne pense pas qu'on soit heureux si on n'est pas capable d'apprécier les petits bonheurs quotidiens. C'est une leçon de vie aussi, c'est Montaigne, c'est... voilà. Ah, c'est...
Dans votre livre Entre deux siècles, vous parlez aussi cinéma. Le cinéma, c'est aussi quelque chose qui reflète la société.
Bah oui. Alors le cinéma, moi, ça a été une grande période dans les années 70. Malheureusement, j'ai perdu pied parce que je ne connais pas les films actuels. Je vais très peu au cinéma, même si je vois pas mal de films par le biais de la télévision. Mais c'est pas pareil d'être dans le cinéma et de voir un certain nombre de films. Bon. Mais le cinéma des années 70, pour moi, a été un élément important. J'ai été membre de ciné-club, j'en ai même animé un. Je crois que je connaissais à peu près tous les... pas tous les films, mais beaucoup, beaucoup de films qui sortaient à cette époque. J'étais très attiré un temps par le cinéma italien, je le dis. Hein. Mmh. Je n'explique les raisons. Peut-être parce que je me suis toujours senti plus communiste italien que français, mais bon, ça c'était mes choix. Hein. Parce que, peut-être de façon naturelle, j'ai le besoin d'un compromis historique permanent. Comme disait Enrico Berlinguer, l'ancien secrétaire général du Parti communiste italien, on ne vit pas dans une société par affrontement. C'est pas possible. C'est pas possible de percevoir la société comme un affrontement permanent. Il peut y avoir des différences idéologiques, il peut y avoir des échanges, mais je crois que c'est important qu'il y ait des valeurs communes, des choses comme ça. Bon, alors pour le cinéma, ben j'ai tout aimé dans le cinéma des années 70, vraiment tout, le cinéma français, bien sûr, le cinéma italien, avec des gens comme Scola, Visconti, enfin je vais pas énumérer tous les... Fellini, bien sûr, mais... Et je pense que... Et puis le cinéma américain aussi, dont je parle d'ailleurs. Mon alter ego me dit, mais alors le cinéma américain, tu... J'ai dit, si, le cinéma américain, j'aime, avec cette ambivalence qu'a le cinéma américain, qu'il a toujours d'ailleurs, de montrer une réalité et en même temps d'en faire quasiment un outil de propagande, quoi. C'est-à-dire l'esthétisme que peut avoir, par exemple, un Coppola dans les films... Apocalypse Now, par exemple. Hein. Pour moi, il y a une ambivalence. Il y a une œuvre d'art et en même temps, une œuvre d'art qui se justifie elle-même. La guerre du Vietnam devient Apocalypse Now. La guerre du Vietnam devient les Valkyries, quoi. Or, ce n'était pas les Valkyries, c'était des gens qu'on assassinait, etc. Voilà. Et donc, vous voyez, il y a toujours... Pourquoi ? Parce que dans mon message, enfin, dans ce que je pense aussi, parce que nous avons vécu, nous vivons toujours un peu, même si c'est remis en question, sous la considérable influence culturelle de l'Amérique, c'est clair, selon moi.
Vous parlez de la guerre aussi, les guerres de l'Irak
Bah oui, c'est un exemple. C'est la façon dont on peut présenter les événements, y compris la façon dont on nous les présente. Hein. Moi, la guerre d'Irak m'a frappé, l'histoire de Colin Powell qui montre un flacon d'anthrax, enfin... tout ce qui a pu se passer à l'Assemblée de l'ONU, hein, quand même, hein, et qui est les gros mensonges qui ont été déversés à ce moment-là. Et puis, cette incroyable guerre qui a fait Alors, on oscille entre 600 000 et 1 200 000 morts. Alors, quand on regarde les chiffres, on se dit, mais enfin, comment c'est possible, quoi ? Wikipédia parlait de 70 000 morts. Enfin, je regardais les chiffres tout en écrivant, je me dis, mais comment est-ce possible qu'on passe pour pertes et profits des choses semblables, vous voyez, avec tout ce que ça a pu développer ensuite, comme radicalisme, etc. J'en passe des meilleurs, nous vivons un monde dangereux, je le sais bien. Et voilà, c'est aussi un appel à la réflexion globale, avec une prise de recul nécessaire pour dire, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que nous... On sait bien, le monde devient multipolaire, il est très complexe à appréhender. Il y a... Et en faisant ce livre, ça a été pour moi l'occasion de lire beaucoup, 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 à tel point que je me suis demandé s'il ne fallait pas que je mette une biographie. Hein. Mmh. Mais mettre une biographie, ça faisait un peu... sous-produit universitaire, à vrai dire. Or, un roman, c'est pas un produit universitaire. Parce qu'on choisit. On choisit ses, évidemment ses thématiques, on choisit son... c'est soi qui on est impliqué, hein, évidemment. Hein. J'ai un professeur qui disait, il faut faire la différence entre être engagé et être impliqué. On est engagé dans une thèse, mmh. on est impliqué dans un roman, quoi. Forcément. Mmh. On parle de soi. Bon, mais j'ai quand même essayé d'élargir le spectre des réflexions, des études, des lectures, etc. Et moi, tout ce que je souhaite, je ne demande pas à mes lecteurs d'être absolument d'accord avec moi. D'ailleurs, ce serait presque contradictoire avec ce que je dis. Mais je demande simplement que chacun prenne un peu de recul et répondre aux exigences, aux nécessités de recul pour comprendre l'évolution du monde qui est très complexe. Et quand on dit complexe, on dit incertitude, on dit beaucoup, il y a beaucoup de questionnements. Quoi.
Oui. Les inégalités sociales, c'est quelque chose aussi qui vous touche évidemment.
Les inégalités sociales, évidemment, sont très présentes, on ne doit pas les oublier. Moi, j'ai toujours vécu avec un besoin de, comment dire, un projet, des intentions d'émancipation sociale. Pourquoi ? Parce que je suis d'origine paysanne. Et mm-hmm. Mon père était un modeste agriculteur, hein, et j'ai conscience souvent de la différence qu'il y a entre le vécu quotidien et tout ce que l'on peut dire à un niveau plus élevé. Je crois qu'il ne faut jamais oublier cette nécessité d'émancipation sociale. Il ne faut jamais l'oublier, quoi. C'est une donnée humaine fondamentale, même si l'humain est complexe, que les choses ne se passent pas. L'histoire n'est pas une ligne droite. Elle est faite de tragédie, elle est faite de recul, elle est faite de bons en avant, surtout en France. Hein. On perçoit l'évolution comme des escaliers. Hein. On se confronte à des murs et puis hop, à un moment donné, ça bouge. Quoi. C'est un peu... La France a une évolution qui n'est pas sans rappeler la tectonique des plaques. Il y a du calme et puis il y a des mouvements et puis hop, ça se restabilise. D'ailleurs, le monde, à mon avis, est un peu comme ça. Il est un peu dans une tectonique aussi. On passe... c'est Michel Mafiesoli, un sociologue important, hein, qui dit... il y a des parenthèses et il y a des périodes entre parenthèses. Et j'ai le sentiment, je suis d'accord avec lui, qu'on est en train de fermer une parenthèse qui a débuté à Bretton Woods en 1945, hein, 46, que cette parenthèse faite d'un Occident qui est super dominant, hein, qui, d'ailleurs on le dit, hein, il faut toujours faire attention au langage. On appelle ça la communauté internationale. C'est-à-dire que 800 millions d'habitants, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe... l'Australie, on va dire, on appelle ça la communauté internationale. Or, il y a 8 milliards d'habitants sur Terre. Ça veut dire que le dixième des habitants de la Terre ne peut pas être catalogué comme communauté internationale. C'est pas possible. Donc oui, il y a une multipolarité qui se met en place. Je vous fais pas de dessin, etc. Et ça, il faut en tenir compte. C'est une nouvelle réalité. Donc une parenthèse vient de se fermer. On est entre deux parenthèses, probablement. Et entre deux parenthèses, il y a des incertitudes, il y a des chaos. Il y a le chaos. Hein. Mm-hmm. Vous savez que la théorie du chaos, elle existe aussi, hein, c'est pas, elle est applicable, elle est transversale à beaucoup de sciences d'ailleurs, y compris les sciences sociales, et peut-être surtout les sciences sociales.
Ces années d'histoire sur lesquelles vous êtes revenu dans votre roman, Entre deux siècles, vous parlez évidemment aussi de cette période de confinement qu'on a tous vécu de façon particulière, chacun.
Alors là, je me garderai bien. Bon, j'en parle avec Paul, vous avez vu. Ouais, ouais. Et puis je dis, bon, je n'ai pas voulu ouvrir une parenthèse sur laquelle revenir sur une période qui a beaucoup clivé la population. Donc je ferme cette parenthèse sans donner mon point de vue, tout en le donnant, évidemment, en disant que, et je fais référence à la Boétie, à la servitude volontaire, j'ai fait de la psychologie sociale à l'université. Et pour moi, c'est un excellent moment qu'on peut analyser comme... c'est un cas de labo, quoi. C'est-à-dire que l'idée qu'on puisse faire signer des auto-autorisations pour sortir de chez soi est une idée baroque que peut-être certaines dictatures ont envisagée mais qu'elles n'ont jamais appliquée. Et nous, nous avons appliqué cette idée baroque et tout le monde a marché, quoi. Donc je dis, voilà, il y a une servitude volontaire. Je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas. Mais en tout cas, si on l'analyse avec une certaine distance, y a que c'est quand même extraordinaire. C'est quand même quelque chose de phénoménal, quoi. Qui aurait pu penser que la France moderne, qu'après tout ce qu'on a connu historiquement, on puisse comme ça faire accepter à tout un chacun, ah ben tiens, je vais faire mes courses, ah ben je me signe une autorisation. Ah ben après, je vais promener le chien, je prends une autre autorisation, je la signe, etc. Et on avait fini avec mon épouse par prendre une gomme, et bien sûr, parce qu'au début, je vous assure que ça doit être arrivé à beaucoup de couples, hein. Au début, on se faisait des autorisations successives, parce qu'il fallait sortir. Bon, il se trouve que j'ai la chance d'habiter à la campagne, enfin, je veux dire, dans un lotissement qui donne sur la nature, hein. Eh bien, à la fin, carrément, on gommait et on changeait d'heure, quoi. On retrouve là le détournement de la loi. Trop de loi permet le détournement de la loi. Vous voyez, il y a quelque chose quand même qui est pas normal dans ce truc-là, quoi. C'était quand même extraordinaire.
Une drôle d'époque.
Ouais. Drôle d'époque. Drôle d'époque. Ouais.
Est-ce que vous avez envie de lire un extrait de votre livre « Entre deux siècles », Jacques Beck ?
Ou alors un extrait...
Un morceau choisi.
Un morceau choisi. Je n'ai pas pensé à un morceau choisi, mais peut-être à la fin. Hein, puisque... Je vous disais, il y a aussi un message aux nouvelles générations, bon, sans prétention. Hein. Mm-hmm. Donc je dis, on est à la fin, et puis cette conclusion, eh bien, c'est une semaine de vacances, entre guillemets, que je passe avec mon épouse à Majorque, à la Valdemossa, qui est un village célèbre, puisque Chopin et Georges Sand ont passé l'hiver 1938. Et depuis, il y a des concerts de piano, il y a des récitals, enfin bon, c'est... Voilà. Et donc, je dis, demain, je rentre chez moi. Puis par rapport à tout le bouquin, je dis, parce que j'ai 75 ans bien tapé aussi, et que l'avenir appartient aux jeunes générations, il y a un peu tout ça, je dis, demain matin, le soleil apparaîtra de nouveau, ne serait-ce qu'au début, qu'au-dessus des nuages, puis d'autres journées ensoleillées suivront. Sur notre beau plateau de Haute-Provence, de nouveau les oiseaux chanteront et les collines se couvriront de ces reflets bleutés qui sont la marque de ce pays et proclament la jeunesse du monde. Et d'autres matins arriveront, d'autres étés se succéderont, d'autres générations parcourront le chemin de la vie balisé par leurs rêves, d'autres générations s'accrocheront à leurs utopies car la vie a besoin de sens et le sens a besoin d'étoiles. Et au moment où l'âge se fait morsure, hélas, elles sentiront elles aussi le doute s'installer et s'épuiser leur volonté. Car Sisyphe finit toujours par s'épuiser, il finit par mettre un genou à terre, lui qui porte sur son dos, au bout des ans, un sac de souvenirs toujours trop lourd. Ben, Sisyphe, c'est chacun d'entre nous, hein, qui remonte sans arrêt, etc. Avec, pour moi, comme je le disais, cette volonté, cette espèce de rêve émancipateur qui ne m'a jamais quitté. Mais je dis aussi... Mais il est dans la nature de la jeunesse de reprendre ce sac et de gravir à nouveau la montagne qui donne sens à notre vie et qui fait de nous ce que nous sommes. S'il y a des motifs d'inquiétude, il existe aussi des raisons d'espérer, parce qu'il ne faut jamais désespérer, évidemment. Et je dis, et j'ajoute, la mise en perspective effectuée avec Paul, mon alter ego donc, sur les 50 dernières années, ne doit pas, par nostalgie, me conduire à un excès de pessimisme. Après tout... Depuis la nuit des temps, les personnes âgées regardent avec un regard critique les générations qui arrivent. Il n'est qu'à se souvenir de ce que Socrate disait déjà selon Platon en son temps. Certes, le XXIe siècle n'est pas et ne sera pas l'Éden post-historique que d'aucuns annonçaient. Là, je fais référence à Fukuyama. Hein. Les pièges sont nombreux, les impasses évidentes. Je veux croire cependant que la jeunesse saura relever les défis de ce monde peu lisible. Voilà, je m'arrête là, mais voilà, c'est toujours un peu un brin d'espérance avec, bien sûr, une claire conscience de la complexité des choses.
Donc il est question d'amour aussi, évidemment.
Il est question d'amour aussi avec toute l'irrationalité, la complexité de ce domaine. Quand on a mon âge, on est là aussi, il y a une sagesse, une mise à distance qui se fait, hein, c'est clair. Qu'ajouter d'autre, je ne peux pas trop m'étendre là-dessus, mais voilà. J'apprécie pas forcément toujours Sartre, mais je fais référence à l'âge de raison et à des personnages complètement contradictoires qui se meuvent dans des histoires d'amour qu'ils ne maîtrisent pas, parce que ça ne se maîtrise pas. On ne peut pas rationaliser l'irrationnel, évidemment. Puis voilà, c'est aussi, ça fait partie de la vie. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire, mais c'est, bien sûr.
Voilà, on ne peut pas se quitter sans revenir sur ce plateau de Valensole où l'amandier, bien sûr, est important. Jacques Bec, Valensole, on rappelle donc que c'est un joli petit village aux alentours de Digne. Ça fait une trentaine
quarantaine de kilomètres.
Quarantaine de kilomètres, hein, où il y a eu ce célèbre OVNI aussi en 1965 dans les champs de lavande.
Ben. Oui, c'est-à-dire que Paul Valaguer, qui se cherche d'autres racines, comme tous les citadins, fait des promenades autour de Valensole, mais des promenades de citadins, quoi. C'est-à-dire qu'il est, il est à 500 mètres du village, il tourne autour. Et je lui dis, bah, écoute, moi qui suis un vrai rural, tes racines, on va aller les chercher dans le Valensole insolite. Et je lui fais visiter des sources, je lui explique comment certaines fermes se sont construites à proximité de sources dans les bois. On regarde les cultures, je lui parle des habitudes et des traditions historiques du village. Et à travers ça, c'est aussi tout ce que je veux exprimer. Cet élément important de dire à la jeunesse, vous savez, avoir des racines, c'est pas un handicap, c'est au contraire, c'est une chance, c'est quelque chose qui vous permet de vous élever. Bah, je reprends presque une métaphore de Simone de Veil, la philosophe, sur l'enracinement justement, hein, qui avait fait un bouquin sur l'enracinement, en disant, si on a des racines profondes, les arbres qui ont des racines profondes peuvent s'élever. D'ailleurs, c'est pour ça que l'amandier est très présent, parce qu'aussi il a une pérennité, une histoire beaucoup plus importante que la nôtre, et qu'il a vu des témoins. Et donc, on fait le tour de Valensole, on voit des Valensoles insolites. Je l'amène même à venir à cet endroit où s'est passé ce phénomène incroyable d'un ovni qui un jour, apparemment, est arrivé dans un champ. C'est pas une question d'y croire ou de pas y croire, c'est que tous les Valensolais ont pu voir le lendemain qu'il y avait des traces balisées par la gendarmerie et attestées par un rapport de gendarmerie officiel, etc. Donc voilà, il s'est passé quelque chose là. Ça fait aussi partie de l'histoire de l'imaginaire et de l'histoire du village, comme un certain nombre d'événements qui l'ont marqué. Et c'est un endroit, Valensole, c'est une des plus grandes communes en superficie de France. Je crois que c'est une des 50 ou 60 premières communes. Et il y a plein d'histoires qui arrivent. C'est un lieu un peu, je ne dirais pas que c'est magique, parce que c'est magique pour moi, mais ce n'est pas pour les autres. Mais Journaud disait c'est la capitale quasi déserte de l'Empire du Vent. Voilà, c'est aussi cette découverte, cette redécouverte, y compris pour les lecteurs, de venir dans cet endroit où il y a une esthétique, une luminosité particulière, une histoire particulière, et puis les murs aussi qui renvoient. Je regarde d'un point de vue de la sociologie rurale, hein, et je dis, ben, vous avez effectivement, avant, les paysans vivaient au milieu du village, maintenant, ce sont des gens beaucoup plus jeunes qui ont une activité pendulaire, qui partent le matin, qui reviennent le soir, mais la différence avec une barre d'HLM, c'est que ce pendulaire-là est marqué par les pierres. Ils ne vivent pas n'importe où. Ce n'est pas un appartement en parpaing construit il y a 20 ans. C'est des maisons qui ont vu des générations et des générations. Et pour moi, la pierre, elle porte quelque chose. Voilà. C'est tout ça quoi, que je veux exprimer aussi.
Merci Jacques pour tous ces détails. Donc vous continuez à faire des visites de Valensole, à organiser.
Tout à fait. On a travaillé sur le circuit historique de Valensole avec la municipalité et on continue à peaufiner, à compléter tout ça pour faire découvrir et redécouvrir d'ailleurs à la population des lieux inusités, quoi, des lieux qui sont dans la banalité. Il y a une rue des Juifs par exemple, hein, une juiverie. Ben oui, mais c'est toute une histoire, quoi.
Et oui.
C'est qu'il y avait là une population, quand est-elle partie, pourquoi, etc. Et tout ça, ça fait partie de la réappropriation de sa propre histoire, mais aussi d'une histoire plus générale. Hein. Vous savez, la petite histoire, elle est toujours dans la grande, quelque part.
Jacques Bec, merci. Donc, Entre deux siècles, un roman que l'on peut trouver
dans les librairies.
Oui, là, il vient de sortir, donc toutes les librairies n'en ont pas. Je pense que sur Digne, à la librairie...
La Ruelle
À Ariès également, à La Ruelle, oui, à la Maison de la Presse. Mmh. Et puis, je vais faire un certain nombre de conférences, de présentations, y compris dans les médiathèques, peut-être à Digne, mais il faut que je contacte... Enfin, voilà, je suis en tout début de promotion et j'aurai l'occasion de rencontrer les lecteurs, voilà.
Merci Jacques Beck.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.